Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu, comme chaque jour, à cette heure-ci, de retrouver Franck Ferrand avec, dans sa besace, un nouveau sujet inattendu. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Inattendu peut-être, mais surtout paradoxal, le sujet d'aujourd'hui. On parle souvent de la Seconde Guerre mondiale en général et en particulier de l'occupation de la France entre le printemps 1940 et l'été 1944. Période sombre et douloureuse. On pourrait penser que les arts étaient en berne pendant ces quatre années. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que le théâtre, les cinémas, les galeries d'art, les librairies n'ont pas désempli à l'époque.
Et c'est ce que montre notamment l'ouvrage dirigé par Stéphane Guégan chez Beaux-Arts Éditions, « Les arts sous l'occupation, chronique des années noires ».
Années noires, peut-être, mais pas pour tout le monde. Stéphane Guégan, historien des peintres et de la peinture, qui est un habitué de cette émission, est avec nous. De même que Jean-Pierre Rioux, dont nos auditeurs connaissent la passion pour le cinéma notamment. En leur compagnie, c'est un clair-obscur plein d'impressions aigres-douces que je vous propose d'explorer cet après-midi.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, tel est l'étrange titre d'une œuvre non moins étrange proposée fin 1941 par notre Sacha Guitry national. Inutile de vous dire que ce titre et la dédicace au maréchal sur vélin filigrané à la Francisque n'auront pas été pour rien dans les ennuis du roi de Paris à la Libération. Mais de quoi s'agit-il en vérité? Eh bien, comment vous dire? Il s'agit d'un film didactique qui prend la forme d'un commentaire en voix off sur les images d'un très beau livre pas encore relié que l'on feuillette. Complainte d'un pays meurtri et qui, cahier après cahier, envisagerait les gloires passées sous l'angle d'un hommage des artistes présents aux chefs-d'œuvre d'autrefois, le tout présenté de manière à la fois très moderne et pas du tout distrayante, disons-le. Je revoyais ce film hier soir avant de vous en parler, c'était la moindre des choses, j'ai failli m'endormir. Quel amalgame de panaches, d'aigreurs rentrées, de clameurs sourdes et de non-dits, de fulgurances patriotiques noyées sous des circonvolution de nonce. Voici un extrait du film.
Détail du tombeau de Valentine Balbiani par Germain Pilon. Un dessin de Clouet. Une lettre autographe de François Ier. Le portrait du roi par Clouet. Ronsard. Portrait de feu Monsieur de Ronsard dont l'auteur n'est pas encore connu. Remontrance au peuple de France, 1560. Rien ne me fâche tant que ce peuple battu, car bien qu'il soit toujours par armes combattu, froissé, cassé, rompu, il caquette et grommelle, et va toujours semant quelques fausses nouvelles. Tantôt il a le cœur superbe et glorieux, et dit qu'un escadron des archanges des cieux viendra pour son secours. Tantôt la Germanie arme pour sa défense une troupe infinie, et tantôt les Anglais le viennent secourir, et ne voient cependant comme on le fait mourir, tué de tous côtés. Ronsard.
Vous voyez les allusions cachées, et d'ailleurs pas cachées. La mythologie nationale digne des images d'Épinal et des albums illustrés pour enfants est ici convoquée à travers tous les grands poètes, tous les grands artistes d'autrefois, et tout ça bien sûr enrobé par ce phrasé de Sacha qui ne recule devant rien, et surtout pas devant une comparaison des marasmes respectifs de 1429 et de 1942, comme si le diable s'était amusé à bousculer les chiffres identiques des deux dates. Disons-le, de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, contribue de Guitry à la Seconde Guerre est aussi raté que ceux de chez nous, son tribut à la première, était réussi. Et ce n'est pas un hasard. Il y a bien du malaise et du mal-être, bien de la culpabilité dans ces quatre années d'occupation. Sacha Guitry vit à Paris, alors en zone occupée, tributaire d'un régime à part lié à son statut de capitale vaincue. Le pouvoir officiel en France est au sud, en zone libre, à Vichy, dans ses hôtels pour thermalistes où s'entassent ministres et hauts fonctionnaires. Paris, maculé de panneaux en allemand et de bannières nazies, donne l'impression par ailleurs d'avoir fait un saut dans le passé. Cette capitale qui, deux années plus tôt, donnait encore le ton au monde, la ville des enseignes lumineuses, des encombrements automobiles et de la consommation facile, cette métropole moderne est retombée sous l'effet de l'occupation, des contraintes du couvre-feu, des restrictions et des privations dans une sorte de 19e siècle anachronique. Faute de carburant, on a ressorti les fiacres, les carrioles, les vélos et les vélos-taxis. Quelques autos circulent encore, mais elles sont en majorité à l'occupant. Et pourtant, les expositions font le plein. Les Les galeries d'art ne désemplissent pas, les théâtres, les cinémas sont pris d'assaut par une foule avide de se changer les idées et de compenser par ce soudain débordement de culture un trou d'angoisse, l'avenir confisqué. Ce sont les éditeurs et les libraires qui profiteront le plus de ces 4 années paradoxales où fleurissent dans un étonnant semblant de liberté sous caution les œuvres de Camus, d'Éluard, de Larbaud, de Valéry, de La Varande, de Simone de Beauvoir. Étrange période que celle de l'occupation, si bien dépeinte il y a une génération par Henri Amouroux, une période dont il serait de mauvais goût pour le moins d'évoquer une quelconque nostalgie, mais qui en revanche peut passer pour un moment de bouillonnement culturel et intellectuel. Eh bien c'est ce bouillonnement que j'aimerais à présent vous faire toucher du doigt, en mettant plus spécialement l'accent sur la peinture et sur le cinéma.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Stéphane Guégan qui a dirigé l'ouvrage Les Arts sous l'Occupation, chronique des années noires chez Beaux-Arts Éditions. Pardon. Et Jean-Pierre Rioux, il a dirigé les premiers travaux sur la vie culturelle sous Vichy, sorti chez Complexe en 1990. Et il vient de publier La France de 1900 chez Talendier dans la collection Texto.
Bonjour à vous deux, merci beaucoup de nous avoir rejoints.
Bonjour.
Il faut dire que ce bel album, Les Arts sous l'Occupation, qui paraît chez Beaux-Arts Éditions, Stéphane Guégan, est un véritable piège pour les esprits curieux, car comme c'est présenté sous la forme d'une chronique, avec de courts articles qui suivent donc chronologiquement l'avancée de l'époque, bien sûr on butine d'article en article, on se laisse complètement gagner par l'époque, et au bout d'un moment on est immergé dans cette occupation. Période faste pour les arts, ça c'est quand même un paradoxe qu'il faut souligner, et dont il faut peut-être trouver les racines avant l'occupation elle-même, car il y avait déjà ce bouillonnement dès la fin des années 1930.
Certainement, et si Paris a finalement bénéficié d'une liberté aussi grande sous l'occupation, c'est qu'elle occupait dans l'Europe de la culture une place unique.
Ah oui,
unique. Les Allemands le savaient. Hitler, dès avant la défaite, dès avant la guerre, rêve de détruire Paris. Et puis finalement, il va livrer Paris à son armée. Et Paris va devenir le théâtre des plaisirs pour la Wehrmacht, la Gestapo, les militaires.
Ce qui est intéressant, c'est que les ordres qui viennent de Berlin, et notamment d'Hitler en personne, sont des ordres incroyablement libéraux. En tout cas, a posteriori, quand on regarde ça, l'idée est de maintenir la vie culturelle et de ne surtout pas s'en mêler. En tout cas, tant que ça ne gêne pas, bien sûr, les intérêts allemands.
Donc il s'agit d'amadouer les Français. Ouais. C'est tout le paradoxe du régime de Vichy. Mais pour le résumer d'une phrase, je la tire du journal de Cocteau en 41. Il est lamentable que la justice nous vienne de nos ennemis. Et là, il parle bien sûr d'une sorte de libéralisme culturel dont lui-même, bien sûr, a profité.
Et dont il s'est fait, alors là, vraiment, le chantre, on en verra tout à l'heure quelques exemples. Oui. Je citais à l'instant, Jean-Pierre Rioux, le film de Sacha Guitry, qui n'est pas vraiment un film, hein, qui est une sorte de conférence filmée à partir de son ouvrage. On est étonné de voir à quel point tous les grands ancêtres, si je puis dire, et toutes les valeurs sûres du passé sont convoquées à l'appui du moral national, en quelque sorte.
Ben oui, c'est le but même de l'État français, du nouveau régime de Vichy, n'est-ce pas ? Essayer de puiser après la défaite et l'occupation, et tout en engageant la politique de collaboration que l'on sait, c'est essayer de puiser dans ce qu'ils appellent à l'époque la tradition française, et pas du tout la mythologie nationale, bien entendu. Ils ne croient pas qu'il y ait une mythologie nationale. Et donc Sacha Guitry est un assez bon exemple de tout cela. Il persévérera d'ailleurs. Hein,
Sacha Guitry, grand mythographe, néanmoins.
Voilà. Si je puis dire, mais il persévérera après quelques ennuis à la libération, n'est-ce pas? Si Versailles m'était compté,
et Paris, et Talleyrand.
Donc ça c'est très important, parce que l'idée que il faut que, en matière artistique et en matière culturelle au sens le plus large, il y ait retour à quelque chose qui est une espèce d'enracinement national de l'intelligence, du génie, de l'âme de la France qui est en cours de reconstruction, croit-on, au temps de Vichy.
Alors,
cela dit, moi je ne suis pas pour trop pousser le paradoxe, car ça n'est pas non plus un âge d'or, si je puis dire. Hein. Ça l'est en termes de culture de masse, on pourra peut-être en parler à travers le cinéma notamment. Il faut quand même savoir que c'est une vie culturelle qui est sous contrôle, qui a des contraintes. Il n'est pas bon d'être artiste juif, n'est-ce pas, sous l'occupation en France.
Bien sûr, oui.
Il n'est pas bon d'être inscrit sur la liste auto des livres à lire ou à ne pas lire. Il n'est pas bon d'avoir avoir à affronter beaucoup de réactions, de retours, de revanches, de revanches idéologiques de tous ordres, y compris en matière artistique.
Ça, c'est le plan politique. Mais j'ai envie de dire, pour avoir... je viens de passer le week-end là-dedans, donc je n'ai pas évidemment l'expérience que vous pouvez en avoir, mais j'ai été vraiment très surpris de voir que ce que vous dites là touche peut-être 2 ou 3% des productions. Pour l'immense majorité, on est dans une sorte non seulement de liberté, mais d'ouverture, d'efflorescence. Moi, j'ai été stupéfait quand même de découvrir ça.
Moi-même, je l'ai été, à vrai dire, en travaillant sur la période. Ce n'est pas nécessairement la mienne au départ, mais j'avais gardé à l'esprit depuis longtemps, depuis mon adolescence, l'image des Zazou, du jazz, un certain cinéma, et un certain cinéma défendu par le pape de la Nouvelle Vague, hein, le cinéma de Grémillon, on en parlera tout à l'heure. Mais pour les arts plastiques, là c'est un peu plus mon domaine, ce qui me frappe, c'est précisément que la liberté dont on crédite la libération, tout ça est déjà là. L'abstraction, du buffet, Fautrier...
Puis quand même Arnaud Brecker. Alors on vient aux arts plastiques, si vous voulez. Dans un instant, on y vient.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux artistes sous l'occupation, Franck.
Alors justement, il faut que nous revenions peut-être Jean-Pierre Rioux, parce que je ne voudrais pas créer de confusion. Période d'efflorescence, de bouillonnement incontestablement, mais période qui doit s'inscrire aussi dans une continuité. Il ne faut pas oublier l'avant-guerre, et puis on parlera aussi un peu de l'après-guerre tout à l'heure.
Oui, aujourd'hui, ce qui nous étonne un peu, c'est que la scène artistique, n'est-ce pas, se reconstitue tout de suite, et même ces efflorescences tout à fait importantes, hein, qu'il s'agisse des acteurs, qu'il s'agisse des types de production, qu'il s'agisse de la vie des galeries, alors sur le marché de l'art, ça serait plus compliqué, oui, parce qu'il y a quelques courts-circuits vers de gris, un peu compliqués.
Il y a le maréchal Murin qui
même si on est dans des tendances lourdes, qui vont faire de New York le vrai marché de l'art après Paris, après la libération. Bon, mais cette scène artistique est pleine aussi, je dirais, de ce qu'est le projet de reconstitution d'une tradition française dynamique, n'est-ce pas, par Vichy, puisque il y a eu un projet corporatif de Vichy, n'est-ce pas ? Il voulait faire un ordre, comme pour les médecins, ou n'est-ce pas, des arts graphiques et plastiques, n'est-ce pas ? Excusez du peu. Il y a eu des échecs sur l'art maréchal, quand même. Hein, on n'a pas pu magnifier autant qu'on le supposait le maréchal lui-même. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est à la fois, je dirais, dans la continuité des batailles des années 30, revisitées ou non par les régimes autoritaires, le nazisme, etc., contre l'espèce de dégradation, n'est-ce pas, contre le dadaïsme subversif, tout ce que l'on veut, c'est au fond... dans la continuité d'un retour à l'ordre tout à fait en matière artistique qui est très lancé dans les années 30 et qui continue. La difficulté pour bien c'est que cette scène artistique est un peu noyée, si je puis dire, dans un autre phénomène immense, n'est-ce pas, qui s'appelle le déferlement de la vague nouvelle qui s'appelle la culture de masse. Et là, on en parlera plus pour le cinéma.
Bien sûr.
Qui est une couche supplémentaire très épaisse, très dynamique, qui n'en noie pas cette scène artistique. La laisse, mais en même temps ça participe d'eux, et là il y a vraiment des nouveautés tout à fait passionnantes à observer, puisqu'on aura à la fois des jeunes peintres de tradition française et de l'autre des peintres Front National, hein, quand même. Voilà.
Alors une activité florissante dans les galeries mais dans les ateliers aussi, ouais. et un art qui continue de progresser sur le plan de l'esthétique.
À dire, on pourrait imaginer que les Allemands aient appliqué à la vie culturelle française le credo de l'art dégénéré, enfin le credo des nazis. Et tous les Allemands ne sont pas nazis, vous le savez. Pas du tout. En dehors de l'exposition Brecker, au fond, la présence...
C'est un peu la caricature quand même, là, il faut le dire. On est en 1942 avec ces espèces de...
Il y a eu quelques expos de peintres soldats allemands.
Mais très peu de choses au regard de ce qu'on peut voir dans les galeries.
Le sculpteur de ces fameux athlètes...
Voilà, une sorte de néoclassicisme repensé, extravagant, une sorte de masculinité comme ça...
Exacerbée,
qui a fait à la fois... qui a fait beaucoup rire précisément Sacha Guitry. Il a laissé un mot très...
Sacha Guitry dit que si les statues étaient en érection, on n'aurait pas pu circuler.
Voilà, à l'Orangerie, au musée de l'Orangerie, musée qui existe toujours d'ailleurs. Non, ce qui est frappant, c'est la liberté tout de même des avant-gardes.
Alors voilà.
Et le renouvellement des avant-gardes. Oui. Il s'agit précisément, passez-moi l'expression, de désinguer les grands maîtres. Picasso, Matisse, Bonnard, Braque. Ils ne sont plus là quasiment, pour des raisons diverses. Les jeunes artistes s'emparent de cet espace laissé vacant, et avec la bénédiction, si j'ose dire, du moins l'autorisation des forces d'occupation, parce que tant que vous ne critiquez pas le régime de Vichy ou finalement l'occupant, vous êtes libre de montrer votre peinture, qu'elle soit abstraite, néo-surréalisante, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a là une liberté.
Et à partir du moment où le message n'est pas explicite, grosso modo, ça passe en quelque sorte, ce qui explique aussi l'efflorescence de la musique. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais enfin, il faut le dire, il y a eu une incroyable
toutes
activité.
Toutes les formes de musique, vous avez raison. Toutes les formes de musique. On oublie la création des clubs de jazz.
Ah oui,
Django
oui.
Reinhardt a signé le grand tube de l'occupation, le fameux Nuage.
Le grand interprète de l'époque, celui qui est considéré par le régime de Vichy comme la référence, c'est le grand pianiste Alfred Cortot. Le voici dans un extrait du concerto pour la main gauche de Ravel.
Concerto pour la main gauche composé par Maurice Ravel. À tout de suite sur Europe 1 pour le récit de Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui nous relate maintenant sur Europe 1 la vie quotidienne des artistes sous l'occupation, Franck.
Jean-Robert Ragache, que l'on connaît surtout pour ses ouvrages sur la franc-maçonnerie, est aussi l'auteur d'une vie quotidienne des artistes sur l'occupation. Il y écrivait que l'occupation avait été un âge d'or pour les spectacles, pour échapper au malheur du temps, au pessimisme ambiant, aux privations, bref, à cette trilogie ironique de Léon-Paul Fargue, qui avait travesti la devise de l'État français « Travail, famille, patrie » en « Tracas, famine, patrouille ». On lisait, mais surtout on allait au cinéma et au théâtre, écrit Jean-Robert Ragache. Il note que les recettes des cinémas vont doubler entre 1938 et 1943, et celle des théâtres triplés. Faut-il préciser dès lors que la vie des artistes s'en ressent et qu'au moment où la majorité de la population souffre, les milieux artistiques, eux, en tout cas tout ce qui concerne les grands artistes, auraient tendance à respirer. Pour certains, que le cœur y soit ou n'y soit pas, ça c'est une autre question, l'heure, disons-le, est à la fête et peut-être à l'étourdissement. La vie mondaine, où se montrent plus que jamais Cocteau, Mistinguette, Suzy Solidor, bien sûr, ou encore Maurice Chevalier, trouve à s'employer dans des charités évidentes. Alors on danse pour la Croix-Rouge, on chante pour les enfants réfugiés, on s'amuse pour aider les soldats prisonniers, tout cela sous l'égide d'un organisme du régime de Vichy, le Secours National. Je cite à nouveau Jean-Robert Ragache. « Jamais les grands restaurants n'ont eu autant de clients. Au milieu des uniformes allemands, tout ce que Paris compte de célébrités vient prendre ses repas chez Maxim's, à la Tour d'Argent, chez La Pérouse, Drouan, Lucas Carton, qui forment le groupe de tête des endroits où il faut aller pour être vu. » Ça, c'est quand même le paradoxe. Qu'on s'amuse et qu'on aille au restaurant, c'est une chose, mais qu'on s'y montre, on est quand même une autre. La Continentale va inviter en 1941 chez le doyen les principales vedettes de cinéma. Et l'on verra Daniel Darieux, Arletty, Harry Bourg, Maurice Tourneur, Henri Decoin, Christian Jacques se précipiter à cet événement. On retrouve aussi, évidemment, tout ce beau monde dans les cabarets. Il faut savoir que jamais les cabarets parisiens n'ont aussi bien marché, si ce n'est peut-être à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale, du reste. On en parlait il y a quelque temps. Le Casino de Paris a repris ses représentations dès juillet 40, les Folies Bergères en novembre 40, et puis il y a eu l'Aiglon. L'Aiglon où Édith Piaf fait sa rentrée avec, Paul Meurice, son protégé. Au Bœuf sur le Toit, on en parlait là aussi l'autre jour. Il y avait notamment une troupe qui ne s'appelait pas encore les Compagnons de la Chanson, à l'époque c'était les Compagnons de la Musique. Et puis bien entendu, les grands cabarets, le Bagatelle, le Sherazade, le Monseigneur, tout ça sont les lieux à la mode, auxquels il faudrait ajouter du reste des maisons closes, qui se transforment plus ou moins en maisons de rendez-vous mondains. Le plus célèbre, c'est bien sûr la plus célèbre, c'est le One Two Two, où se côtoient toutes sortes de personnes. Vous avez à la fois le tout Paris de l'époque, et puis aussi, ne l'oublions jamais, ceux qui, rue Lauriston, torturent pour le compte de la Gestapo, bien entendu. Alors, Il y a beaucoup de cocktails, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions. On n'a jamais tant imprimé de cartons d'invitation. Et bien entendu, les Allemands essaient de tirer profit de tout ce mouvement mondain. Notamment la vedette suédoise du cinéma allemand, Sarah Leander, se voit invitée chez le doyen pour un grand cocktail, sous l'égide bien sûr de l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. Et on voit là encore se précipiter Ginette Leclerc, Albert Préjean, Marcel Vallée, Jean Tissier. Alors, le but n'est pas de dénoncer qui parce qu'encore une fois, tous ces gens ont eu d'ailleurs des comportements à titre personnel extrêmement différents et qui, le but n'est pas du tout aujourd'hui d'aller les analyser ici. C'est simplement de dire que ce qui peut compter dans le monde du théâtre et du cinéma notamment, mais aussi d'une façon plus générale parmi les grands artistes français, sont présents dans toutes ces réunions. Alice Cossea, par exemple, au cours de l'occupation, dit-elle, « Je n'avais pas pu refuser deux ou trois invitations à l'ambassade d'Allemagne. J'y avais rencontré le tout Paris, des spectacles soumis comme à moi à quelques obligations, comme moi pardon, à quelques obligations qu'imposent les servitudes théâtrales. Point final. Alors Otto Abetz, bien sûr, je vous l'ai dit, organise tout cela. Et les Allemands, très vite, vont commencer à organiser pour les artistes français des voyages en Allemagne. Alors là encore, il faut distinguer entre voyage en Allemagne pour la bonne cause, si je puis dire, quand on voit Maurice Chevalier qui s'en va en janvier 42 chanter « Il y a de la joie » devant un parterre de prisonniers de guerre, ou encore Édith Piaf et Charles Trenet en 43, accompagnés par l'orchestre de Fred Addison, qui vont chanter pour les ouvriers français dans les environs de Berlin. Ça, évidemment, ça fait partie... je dirais, des activités habituelles des artistes en temps de guerre. Mais on a aussi des voyages qui, alors là, sont beaucoup plus discutables. Et on se rappelle, au printemps 1942, à l'occasion de la sortie du film d'Henri Decoing, Premier rendez-vous, ce voyage organisé à Berlin pour quelques artistes français. C'est la première fois qu'un film français est montré en Allemagne depuis 1939, évidemment. Et la vedette du film, Danielle Darrieux, est littéralement acclamée. Mais elle n'est pas la seule. Toute la distribution l'a suivie dans ce voyage en Allemagne, ce qui fera écrire plus tard à Arletty, sur cette espèce de ton à la fois parigot et acide dont elle s'était, vous le savez, faite une spécialité, « Trois jolies actrices françaises sont reçues par Hitler. Les actualités et la presse nous les montrent souriantes. La curiosité féminine est toujours excusable. Immunisées par cette visite, après la libération, elles font film sur film. » Il ne faudrait pas, au passage, oublier les grandes institutions qui ont fait à leur façon, sinon tout à fait de la résistance, du moins montre de mauvaise humeur à l'égard de l'occupant. Ça a été le cas de la Comédie française. On se rappelle la protestation des comédiens du français au moment de la nomination du critique Alain Lobreau comme administrateur général. Ça a fait quand même pas mal de bruit. D'ailleurs, tous ne se sont pas mêlés à cette protestation. Il ne faut pas oublier le rôle de l'Académie française, dont on a eu l'occasion de parler à cette antenne. L'Académie qui ne nomme plus de nouveaux membres pour n'avoir pas à aller les présenter au maréchal Pétain. Et puis, il faudrait, mais alors ça, ce serait long, mais c'est assez amusant à faire, il faudrait aller repérer, bien entendu, dans les films et dans les pièces de théâtre, toutes les répliques qui sont à double, pour ne pas dire parfois même à triple entente, et qui, bien sûr, lorsque le public se croit libre de le faire, donne lieu à de véritables manifestations de patriotisme. Au chapitre du patriotisme, je ne voudrais pas finir cette espèce d'évocation de la mondanité sous l'occupation sans parler de quelques-uns de nos grands artistes qui, eux, alors, sont entrés carrément en résistance, sont partis même. On sait bien sûr que Françoise Rosay est devenue l'emblème des artistes qui... Alors, elle est partie, elle d'abord par la Tunisie, puis l'Algérie, elle a gagné, vous savez, les États-Unis. Il faudrait parler de Jean Gabin, bien entendu, qui finira par rejoindre la deuxième DB. Il faudrait parler d'un certain nombre de ces grands artistes, bien sûr Jean-Pierre Aumont, hein, qui débarque en Provence le 15 août 1944, mais d'une façon générale, ou Gérard Philippe aussi qui va combattre sur les barricades de 44, mais d'une façon générale, on peut dire que c'est globalement le tout Paris et tous les grands artistes, enfin beaucoup de nos grands artistes qui se sont dans cette affaire, est-ce qu'il faut dire compromis? En tout cas, ils ont continué de vivre sous l'occupation, après tout, comme la plupart des Français.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Peinture, littérature, théâtre, cinéma, on s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 aux arts sous l'occupation, une période faste, Franck.
Alors, il faut dire, nous venons de voir que les artistes étaient très présents dans les cocktails, il y avait un nombre de vernissages invraisemblable. Dans une même galerie, on en comptait jusqu'à 3 et 4 par an.
Oui, alors on a d'ailleurs la possibilité de... Stéphane de mesurer cette vie sociale grâce précisément à ces catalogues, ces cartons, ces pince-fêtes, ces photographies, ces actualités. On filme l'inauguration du Salon d'automne, du Salon des indépendants, du Salon des Tuileries. Et effectivement, l'illusion s'installe que tout est encore possible. Et tout est possible. Je crois que personne n'était dupe, ni les artistes, ni les Allemands, qui orchestraient au fond cette illusion, mais que les artistes ont tiré profit. Ils en ont tiré profit parce que on assiste à un renouvellement esthétique fracassant, mais aussi pour la raison que vous avez dite, le double langage. Il est évident que les Français ont lu, vu, regardé la peinture avec un œil aiguisé. Ils ont senti qu'un certain message patriotique, un message de résistance pouvait être véhiculé par l'art ou finalement officiel.
Ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, tout simplement, c'est que tous ces lieux culturels étaient évidemment des lieux qui étaient bien éclairés, bien chauffés, où l'on pouvait aussi se rencontrer. Ça faisait des lieux de rencontre et de discussion plus ou moins discrètes. Donc on a tendance à se précipiter, alors dans les théâtres notamment. On se rappelle, comme vous le disiez, Jean-Pierre Rioux, il y a un instant, on se rappelle le film de François Truffaut, Le Dernier Métro, où l'on voit justement cette vie théâtrale intense, dont l'un des grands moments a été la présentation du soulier de satin de Claudel aux Français. Ça fait un bruit considérable, évidemment. C'était le grand événement. Ça durait 6 ou 7 heures. Hein, donc
voilà. C'était le grand événement. Oui, heureusement qu'on n'a pas la paix, comme disait Guitry. Effectivement, et la fin assez à la fois émouvante et pitoyable de Claudel faisant un vague salut devant les parterres en verre de gris, n'est-ce pas ? Il y a là quelque chose qui a laissé trace dans la
conscience
collective.
Avec Abel Bonnard, qui est ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, hein, qui évidemment assiste à tous ces événements. Alors, dans la loge d'Abel Bonnard, il y avait Arnaud Brecker, le sculpteur préféré d'Hitler, dont on parlait. Et Brecker raconte, Abel Bonnard m'avait prié d'assister à cette première dans sa loge. Il ne nourrissait pas une grande passion pour l'auteur, donc pour Claudel et son œuvre, mais ministre de la Culture, il se fit un devoir d'y assister, simple politesse. Nous étions seuls tous deux. Vous savez ce que j'en pense, alors ne vous étonnez pas si je m'endors promptement, faites-moi l'amitié de ne surtout pas me déranger dans mon sommeil. Ce n'était pas une plaisanterie, le rideau se leva, je n'eus pas besoin d'attendre longtemps, je perçus bientôt la respiration profonde du dormeur insouciant et paisible, écrit Arnaud Brecker. Alors ça c'était le théâtre, mais évidemment, ce qui a littéralement explosé pendant cette période de l'occupation, c'est le cinéma, avec quelques-uns des plus célèbres films du cinéma français, Jean-Pierre Rioux.
Absolument, là, je suis assez heureux qu'on en parle, parce que là, on sort vraiment du tout Paris, de la vie parisienne.
Oui. On touche à la culture de masse.
Sur laquelle on focalise, à juste titre, parce qu'elle est à la fois pittoresque et pitoyable, si je puis dire. Oui, alors là, le cinéma est l'exemple type, avec la chanson, avec le sport, avec quantité d'autres activités culturelles ou artistiques, on les baptise comme l'on veut, parce que là, vous le disiez tout à l'heure, les chiffres sont plus que parlants. Enfin, on tourne 220 films en 4 ans d'occupation dans ce pays. Les recettes se multiplient par 3, n'est-ce pas, par rapport à 1938. Il y a 250 millions de spectateurs en 1938. Il y en a 310 millions en 1942.
C'est incroyable,
oui. Voilà. Donc là, le cinéma est en train avec la radio d'ailleurs, est en train de devenir le grand vecteur d'une culture de masse, de consommation d'abord, hein, et qui n'est pas tout à fait, évidemment, et qui n'est que l'antichambre à d'autres formes culturelles dont on a bien vu avec la vie artistique, elle pouvait être très importante, à la fois l'évasion contre les malheurs du temps, bien sûr, y compris pour se chauffer le soir, ou le libraire accueillant auquel on demande sous le manteau, vendez-moi autant on emporte le vent, si vous en avez encore un exemplaire, et puis comme ça je pourrais passer ma soirée tranquille. Et puis il y a évidemment toute une vie culturelle d'engagement national ou résistant. Alors le cinéma est effectivement un temps de chef-d'œuvre, enfin, reconnu a posteriori, parce qu'il y a beaucoup de frustration, n'est-ce pas, d'abord c'est un public, ce sont des publics privés de cinéma américain.
Eh oui. Il faut compenser.
Un vrai problème,
oui, plus droit, là.
Qui avait appris beaucoup de choses dans les années 30 avec le parlant américain. Donc c'est un film. Il n'y a pas de western, il n'y a pas de comédie américaine, etc., etc. Hein, il n'y a pas de grande fresque. Hein, et autant on emporte le vent, on aurait été une magnifique. Hein, mais c'est à la fois une période où les Allemands essaient d'imposer un peu de cinéma nazi. Et il ne faut pas négliger négliger que ça a été important. Le juif sus a été vu très largement. Mais il y a toujours dans cette espèce d'idée, on va mettre l'activité artistique au service du redressement du pays. Au fond, c'est ça. Hein. Alors, que ce soit du côté résistance ou du côté Vichy. Et là, ça crée des chefs-d'œuvre toujours dans cette... Alors, ça s'appelle le corbeau de Clouseau, ça s'appelle la fille du Puisatier, et ça s'appelle Les Visiteurs du Soir. Voilà.
D'un côté, vous avez des films assez populaires. Vous parlez de Pagnol, La fille du Puisatier, etc. On va y venir. Et puis, d'un autre côté, il y a des films qui peuvent vraiment être vus à double ou triple entente. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bien sûr, Clouseau est un des noms qui viennent à l'esprit.
Et avec vos invités, Franck, aujourd'hui sur Europe 1, Stéphane Guégan et Jean-Pierre Rioux, nous intéressons aux artistes sous l'occupation.
Et comme le disait très justement Stéphane Guégan il y a un instant, il faut dans cette affaire s'intéresser non pas seulement à la quantité et d'ailleurs à la qualité des films produits, mais à leur esthétisme particulier, des Enfants du Paradis aux Visiteurs du Soir, en passant par évidemment un certain nombre de fresques assez oniriques, je pense au Cocteau de l'Éternel Retour. On a une esthétique très particulière qui est en train de se mettre en place.
J'ai toujours pensé que la pénurie, la discipline, ça stimulait. Ça stimule la création, ça stimule l'imagination. Et là, le cinéma français en donne la preuve. Il est évident qu'un certain cinéma français, une certaine qualité française que Truffaut et Godard allaient ensuite exalter, est née sous l'occupation, dans le dépouillement. C'est Becker, c'est Grémillon.
Avec les moyens du bord.
On fait du neuf.
C'est ça.
Et ça, c'est formidable.
Je pense que l'archétype de ça, ce sera, alors, après la libération, pour ce qui est du tournage, mais enfin, dans la foulée immédiate de la guerre, La Belle et la Bête de Cocteau, qui est vraiment, des bouts de ficelle, il arrive
à... clé du cinéma de l'occupation, comme Prévert. Prévert signe là, de multiples films, les dialogues de multiples. Il fait parler Tino Rossi.
Eh oui.
Très net.
Première fois.
Et pas uniquement Arletty.
Alors les grands personnages, les grands comédiens, ce sont bien sûr Jules Berry, on parlait des Visiteurs du Soir, c'est Rému, bien entendu, hein, que l'on voit alors à la fois chez Pagnol, certes, mais aussi dans un film assez ambigu comme Les Inconnus dans la Maison.
Absolument, Jean-Pierre Rioux. Donc cette espèce d'ambivalence constante dans ses productions artistiques. Moi je suis pas très sûr qu'il n'y ait pas de continuité très forte, y compris esthétiquement avec le temps du Front Populaire, les années 30, n'est-ce pas? On ne change pas vraiment de mode.
Oui.
Mais c'est un cinéma qui a, je dirais vulgairement, beaucoup de peps, parce que, on le disait tout à l'heure, il est débarrassé d'Hollywood, on l'a dit, il y a une nouvelle génération, ne serait-ce que parce que beaucoup d'acteurs sont ailleurs, hein, pour des raisons diverses, et il y en a pas mal aux États-Unis, etc., et parce que ils sont en phase avec, je dirais, cette espèce d'éclatement et finalement de vitalité culturelle de la France, parce que là, nous sortons de la vie parisienne. Ça s'appelle le cinéma de chef-lieu de canton aussi, ça s'appelle la salle familiale, ça s'appelle le fait qu'on tourne plus de films à la Ciotat qu'à Billancourt, n'est-ce pas, pour des raisons zone occupée ou pas non occupée, et qu'il y a aussi une production qui s'étale ailleurs. Faire du cinéma à Strasbourg, à Alger, à Lyon ou à Paris, c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas, dans l'état d'éclatement géographique et physique et moral du pays.
Je parlais des moyens du bord tout à l'heure. On raconte que sur le tournage des Visiteurs du Soir, le décor était en partie constitué, évidemment, vous savez qu'il y a ces deux grandes scènes de festin, bien entendu, donc il y avait des fruits, des gâteaux, etc. pour le décor, et que le soir de la première journée de tournage, les figurants avaient littéralement bouffé tout ce qu'il y avait sur le décor, donc on a été obligé d'empoisonner littéralement les fruits et les produits, les denrées comestibles, pour éviter que les gens ne se jettent dessus. Parce que on jouait la profusion, et en fait on était dans la pénurie, bien sûr.
Mais Franck, reconnaissez tout de même que ce qu'on retient aujourd'hui des Visiteurs du Soir, c'est le fameux cœur qui bat. Et ce cœur qui bat,
quel symbole.
Bien sûr, quel symbole, quel message.
Et quel symbole aussi que cette lampe
qui bat dans la pierre.
Et qui bat dans la pierre.
On veut nous statufier, nous geler, nous empêcher de respirer. Eh bien le cœur bat quand même. C'est ça aussi dans le fond du cinéma. Et c'est pas un hasard s'il y a tant de films qui parlent de la terre. Alors on est en plein dans l'idéologie de Vichy, retour à la terre qui elle ne ment pas, etc. Mais enfin, je veux dire, il y a à la fois Goupil-Mainrouge, et aussi la petite ville moite dans laquelle le corbeau.
Alors justement, dans le corbeau, il y a cette scène extraordinaire de la lampe, hein, que l'on balance, et d'un seul coup l'ombre, la lumière bouge, et ce que dit Pierre Freinet à ce moment-là, finalement où est l'ombre et où est la lumière. À chaque fois, on parle directement à la situation que vit le spectateur. Quelle allégorie.
Et en même temps, il y a toujours des projections vers des périodes plus romantiques, plus 19e siècle, où là aussi, tous les possibles étaient ouverts. Ça s'appelle les enfants du paradis, n'est-ce pas? On remet en spectacle une espèce de dynamisme français. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, ça fait quelques chefs-d'œuvre.
C'est déjà alors, bien. Un certain nombre, vous l'avez dit, hein, il y a 62 productions, c'est ça?
220 films
et 62 producteurs. J'avais vu connu une chose pareille dans le cinéma français.
Bah, beaucoup de petits jeunes se sont précipités, puisque les anciens, pour des raisons X, Y et Z, n'étaient plus là.
Et un certain nombre.
Avec souvent un peu de cynisme et de haute toile que je m'y mette.
Un certain nombre de très grands cinéastes, je pense à Jacques Feder, puisqu'on parlait de Françoise Rosay, son mari Jacques Feder s'en va, et donc à partir du moment où ils ne sont plus là, bien, on comble le vide. C'est un peu le même phénomène que dans le monde des arts plastiques, finalement.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai en mémoire une interview. Un journaliste vient voir Matisse, il est à Nice, à lui dire: mais est-ce que vous êtes au courant que des choses se passent à Paris, que au fond votre art est un peu périmé? Et il n'en avait pas, au fond, vraiment conscience. Et c'est l'histoire lui est passée dessus.
Alors, puisque vous parlez de Matisse, j'ai justement sous les yeux, on est en mars 1943, hein, dans cette chronologie, dans cette chronique des années noires, les arts sous l'occupation, c'est publié chez Beaux-Arts Éditions, j'ai justement Jazz, la réponse de Matisse au jeune peintre.
Et ô combien significatif, le jazz, parce que le jazz est là, comme le cinéma, on essaie d'oublier ses origines américaines, mais il est présent.
Afro-américaine,
la musique nègre, mais elle est jouée à Paris, elle est jouée dans toute la France. Le fils de Delaunay, l'un des inventeurs de l'abstraction française.
Le fils du peintre Delaunay, donc.
Robert Delaunay, dont la mère était juive, et qui, pendant 4 ans, a ouvert des clubs de jazz à travers la France.
Absolument.
Clubs de jazz qui ont fait le tissu de la musique, de la jeune musique, dans l'après-guerre. On se dit toujours que les jazz, les caves, Boris Vian, c'est l'après-guerre. Tout ça a démarré pendant l'occupation.
Alors justement, cette après-guerre, Jean-Pierre Rioux, est-ce qu'elle a marqué une rupture aussi nette? On a vu une certaine continuité entre l'avant-guerre et l'occupation, et finalement, il y a aussi une rupture entre la guerre et l'après-guerre.
Ça a duré jusqu'aux années 50 et 60, bien entendu. Ça s'appelle la nouvelle vague,
c'est
par
ça,
plan
voilà,
cinéma,
ouais.
Bien sûr. Qui en avait marre de Denis de la Patellière et de quelques autres, très bien. La rupture quand même de la libération, ça a été de nouveau au retour de l'Amérique, n'est-ce pas, quand même, hein, à tous égards. Hein. C'est pas seulement du G.I.S. noir qui s'est manié la trompette bouchée, mais ou le saxo, mais c'est aussi, alors on l'a vu en peinture, on l'a vu, c'est le marché est à New York désormais, c'est à tous égards, retour des États-Unis, Hollywood redébarque, mais en cinéma. Mais ce qui frappe le plus les historiens aujourd'hui, c'est effectivement cette continuité années 30, années 50, n'est-ce pas, où dans les conditions terribles quand même de ces 4 années d'occupation, il y a eu cette espèce de sursaut vers un retour, une analyse de la tradition française. Et pourquoi pas, à travers cela, possibilité de beaucoup de nouveautés. On parlait du jazz, c'est quand même un phénomène tout à fait formidable, parce que le jazz n'a pris sa force en France, pas du tout à Saint-Germain-des-Prés, n'est-ce pas, mais a pris sa force aussi avec 40 frappadingues quelque part à Bordeaux, au Mans ou à Antibes qui faisaient les premiers clubs du jazz club de France.
Merci Jean-Pierre Rioux. On peut évidemment relire un certain nombre de vos grands ouvrages chez Texto, hein, chez Talendier, et puis relire chez Complexe La vie culturelle sous Vichy, qui est directement lié à notre sujet. Les Français, la guerre, l'occupation, la libération, 1939-49. C'est un ouvrage d'Éric Allary et Bénédicte Vergès-Chaignon. C'est chez Geste Édition, ça vient de sortir. Et puis donc, cette chronique des années noires sous la direction de Stéphane Guégan, peinture, littérature, cinéma, théâtre, les arts sous l'occupation, c'est aux éditions Beaux-Arts. Merci beaucoup Stéphane Guégan d'avoir été avec nous et d'avoir fait revivre cette étrange période. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors Franck, je suis passée sous vos balcons il n'y a pas si longtemps et je me suis dit non, là ça ne va pas du tout, ces plantations, ces géraniums, là il faut faire une émission spéciale pour
faire quelque chose, ouais.
Voilà. Et pour tous les auditeurs qui nous écoutent régulièrement chez les experts et qui auraient besoin de quelques conseils en matière de jardinage. Ça fait du bien le jardinage, ça vide la tête. Il y a des choses à faire en hiver, contrairement à ce qu'on croit. On en parle avec les experts. Et puis, comme à chaque fois, bien sûr, nous attendons vos questions, Franck Ferrand, au 39-21, 34 centimes d'euros la minute.
Alors,
ou sur Europe 1.fr.
Du voile d'hivernage ou pas de voile d'hivernage?
Ah oui, c'est vrai, c'est la question du moment.
Ben voilà. Bon. À demain, Julia.
On reste à l'écoute d'Europe 1. À demain, Franck.